France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 29 février. Soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan et Déborah Dagobert à la technique. Soyez les bienvenus dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral, à la pédagogie, au plaisir de la musique. Le menu du jour le voici. À 8h, Christophe Chassol et notre jeune trio violon, violoncelle et piano, Paul Edern, Leandro et Benjamin, pour une dernière chronique en quatuor. À 8h20, notre reportage, Marie Jiquel est allée pour nous à la rencontre d'un collectif d'enseignants artistes qui s'engage contre la réforme des retraites. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera de musique chorale en France et de son essor dans les années 50. Notre invité du jour sera François Delagoutte, directeur artistique du festival Elle. Enfin, Roselyne Bachelot explorera la partition de l'opéra Parsifal de Richard Wagner. Ça, ce sera en toute fin d'émission. Très très bon réveil à notre écoute. Soyez les bienvenus.
Thank you.
Antonio Vivaldi au programme ce matin avec ce disque de 6 concertos pour violon enregistrés par le violoniste et chef d'orchestre Julien Chauvin. À la tête de son ensemble, le Concert de la Loge, un album qui s'inscrit dans la continuité de l'ambitieux projet entrepris par le label Naïve au début des années 2000, dont Challenge ayant pour objectif d'enregistrer plusieurs centaines d'ouvrages, dont beaucoup d'inconnus du très prolifique compositeur vénitien. Voilà, chose faite donc avec cette nouveauté, ça vient donc de paraître chez Naïve. Autre parution discographique à 7h36 ce matin, un album en trio qui réunit Nathanaël Gouin, Guillaume Chilem et Yann Levieunois, un disque de trio signé Korngold et Beethoven, dont je vous propose un extrait.
Thank you.
Le premier mouvement du troisième trio avec piano de Beethoven, interprété ici par ces trois jeunes musiciens français, Nathanaël Gouin, Guillaume Chilem, Yann Levieux-Noy. C'est un nouveau disque qui paraît chez Mirare.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre pour faire découvrir la musique classique à tous, aux plus jeunes aussi. Et aujourd'hui, j'ai choisi une bande dessinée qui s'intitule « La Calasse, l'enfance d'une diva » de l'auteur camerounais Gaspard Nock. Un superbe roman graphique paru chez Nouveau Monde Graphique. L'auteur revient ainsi sur l'enfance et la vie de la célèbre cantatrice grecque, de ses premières années à New York au retour sur la terre de ses ancêtres, de la séparation d'avec son père à l'invasion d'Athènes par les troupes allemandes à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, de cette quête presque impossible pour obtenir l'amour de sa mère, et bien sûr de la place du chant qui lui donnera une raison de vivre. Le dessin est racé, tourbillonnant. J'ai adoré ce récit et en apprendre plus sur ce chapitre de vie de cet immense artiste. Cette bande dessinée, La Calasse, l'enfance d'une diva, s'adresse à tous dès l'âge de 12 ans. C'est donc mon coup de cœur lecture de la semaine.
Thank you.
Maria Callas ici en 1955 avec les orchestres et chœurs de la Rai de Rome. Tullio Serafin à la direction pour cette air légendaire. Casta Diva, extrait de Norma de Vincenzo Bellini. 7h50, je vous offre ce matin des places pour l'exposition Les Couturiers de la Danse que propose le Centre National du Costume de Scène de Moulins jusqu'au 3 mai. Exposition qui rend hommage aux prestigieuses collaborations entre l'opéra et ses grands couturiers qui ne cessent de sublimer sur scène les créations des chorégraphes. Je pense à Coco Chanel et les ballets russes, Gianni Versace et Maurice Béjart, ou encore Christian Lacroix, puis Balmain avec les ballets de l'Opéra de Paris. Le Centre National du Costume de Scène rend donc hommage à ces prestigieuses collaborations en vous proposant une sélection de 120 costumes. Si vous souhaitez remporter vos entrées pour cette exposition, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez vos coordonnées. Et puis la bonne réponse à la question qui va suivre, et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres. Alors ce matin, je vous propose de deviner le nom du fondateur des ballets russes. Trois propositions, Mimi Mati, Serge de Diaghilev ou encore Louis Funès. Si vous avez la bonne réponse, une seule adresse, francemusique.fr. Bonne chance à vous. Thank you. La valse fantaisie de Michael Glinka, ici par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Pavot Yervy. Pour ce concours, je vous offre ce matin des places pour l'exposition Les Couturiers de la Danse que propose le Centre National du Costume de Scène de Moulins jusqu'au 3 mai. Pour emporter vos places, il faut deviner le nom du fondateur des ballets russes. Trois propositions que je vous rappelle. Mimi Mati, Serge Diaghilev ou bien Louis de Funès. Une seule adresse pour participer à notre concours, francemusique.fr.
En mars, à la une d'Opéra Magazine, Tougan Sokiev, le directeur musical de l'Orchestre National du Capitole et du Bolchoï, pilote les musicales franco-russes de Toulouse. Il dirigera notamment Mazeppa et Eugène Onéguine à la Halograin, puis reprendra Mazeppa à la Philharmonie de Paris. Opéra Magazine, en partenariat avec Samedi à l'Opéra, l'émission de Judith Chen sur France Musique le samedi à 20h. L'Opéra comme si vous y étiez.
Vendredi 6 mars à 20h, à l'Auditorium de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par le jeune prodige Klaus Makela, nous entraînera vers le Grand Nord, avec le concerto pour violoncelle de Salonen, interprété par Truls Mörck, et la première symphonie de Sibelius, merveille d'éloquence et de lyrisme. Avec une pointe d'esprit français, avec gigue et ronde de printemps de Debussy. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
France Musique.
Vous allez là,
vous allez l'adorer.
Excellent début de journée à l'écoute de France Musique, il est 8h.
Chère auditrice.
Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Et bonjour Paul Edern, Benjamin et Leandro, notre trio de grands musiciens qui nous accompagnent depuis le début du mois de février. Paul Edern au violon, Benjamin au piano, Leandro au violoncelle. Vous avez tous les trois 14 ans. Et Christophe, vous prenez des leçons de musique là depuis quelques semaines.
Oui, j'adore. J'adore.
Et d'ailleurs, je crois qu'ils vont vous apprendre, eux, quelque chose aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, ouais, ils vont me jouer ce qu'ils travaillent. Mais qui d'ailleurs ? C'est le gars du Nouveau Monde ?
Oui, c'est Antonin Dvorak, compositeur tchèque romantique d'ailleurs, qui en fait a composé plusieurs trios, dont un qui est le plus connu, qui en fait. Il ne l'a pas dénommé trio, il l'a dénommé Dumki, en référence à, à son contenu, où on a six pièces intitulées chacune Dumka, où on a une succession d'un passage plutôt élégiatique, lent, à une danse populaire qui va très vite.
Alors franchement, vous n'avez pas du tout fait n'importe quoi. Moi, je sais que je lutte contre ce truc de la... Enfin, c'est bien d'essayer de jouer à la perfection les choses, mais y a une façon de faire, de penser les choses qui peut vous... En ayant plus de tolérance avec la fausseté, les erreurs, finalement, on joue mieux pour moi. Hein. Alors, par exemple, moi, ce qui m'intéressait dans ce morceau, enfin, ce qui m'intéressait, il y a plein de trucs qui m'ont intéressé, mais ce que je... ce que je, là où je pourrais vous dire quelque chose, c'est, vous voyez, c'est le moment du thème, là, tu peux me jouer au piano, ce qui est à ce moment-là, là, tu vois, les, le moment où ça rentre, en gros, quoi, tu vois, ça, là. Et voilà, juste ça. Alors, ça, tu peux le rejouer, s'il te plaît, encore une fois, je vais, mi, vas-y. Non, cette vitesse. Mi, la, si, mi. Voilà. Moi, pour moi, si on isole les choses et si on les joue avec une forme différente, c'est-à-dire, tu vas essayer de me le jouer ça, mais avec une autre forme. Fais-les-moi avec des accords plaqués comme le morceau d'Axel Rod, s'il te plaît. Ok, c'est quoi la mélodie par-dessus ça? Ah, pour ça, c'est... Merci. C'était la... Pour toi, c'est l'accompagnement, Leandro, ça?
Ah oui.
Et c'est quoi la mélodie, alors? Ah, ok.
C'est vrai, pour le coup, je trouve que c'est plutôt Leandro qui a la mélodie.
Ouais, ouais, ok, si vous voulez. Vous pouvez me le rejouer, ça, juste ces quatre mesures? Et on va voir comment on peut le jouer autrement. Et en fait, je vous dis ça parce que juste s'arrêter sur quatre mesures, connaître le nom des notes qu'on est en train de jouer, connaître le nom des accords, ça fait qu'on le joue mieux ensuite, quoi. Et si on peut jouer hyper lentement, on peut jouer hyper vite, et le jouer en boucle et jouer autrement, ça fait que quand vous retomberez dessus, vous le jouerez encore mieux, quoi. Donc par exemple, là, jouez le moi normal. Ces quatre accords, s'il te plaît, mais d'une façon pop, comme si tu jouais une balade de pop hyper romantique. Donc comme le Axel Rod.
Okay.
Deux fois. La, si, mi, mi, la. Ah, si tu veux. Ok, tu peux me faire, vous pouvez me faire ça tous les deux en même temps, la mélodie plus les accords. Tu veux, fais-le moi comme ça, steady là. Ding, ding, ding. Trois et. Faites-le moi hyper speed. Allez, attends. En fait, c'est le. Quelle est la note du premier temps?
C'est un mi.
Eh ben sur le mi alors. Ok. 3 et. Moi, si vous me faites, si vous arrivez à faire tourner cette mesure, ça c'est génial. 1, 2, 3 et encore. Et ok, stop. Juste. Comme on n'a pas beaucoup de temps, si on avait beaucoup de temps, on ferait ça sur chaque deux mesures, vous comprenez? Et on le jouerait de plein de formes différentes. Mais là, on n'a pas le temps. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez prendre, considérer votre partition comme un bout de chewing-gum, qu'on sculpte, qu'on élargit, qu'on triture, qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on les joue avec des arpèges, on les joue avec, dans les aigus, dans les graves. Que la partition, c'est juste une indication, en fait. Il y a le gars écrit son truc, mais vous pouvez vraiment, c'est un fil rouge, la partition, et c'est un élastique. Et vous le prenez comme ça, vous tirez, mais vous reviendrez toujours à la partition, surtout si vous jouez ensemble. Voilà ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, vous jouez super bien.
Ouais, bravo à tous les trois. Hein. Paul Edern, Benjamin et Leandro, respectivement violon, piano et violoncelle. Quel plaisir de vous avoir eu tous les trois pour ces chroniques au mois de février, et puis vous aussi, hein, Christophe.
Avec plaisir, c'est ce qu'il y a, c'est tout.
On réécoute cette chronique sur francemusique.fr, on la partage aussi, évidemment. Et puis, bonne continuation à tous les trois.
Ouais.
On espère vous revoir bien vite dans les studios de France Musique. Pourquoi pas Génération Jeunes Interprètes, Génération France Musique le live.
Ils seront a priori des musiciens professionnels.
Mais on l'espère. Merci.
Je pense, non?
Oui, on l'espère.
Ok.
Nous aussi.
Et bonne journée à tous les quatre. Thank you. Le label Bee Records qui poursuit son exceptionnelle intégrale de musique de chambre consacrée à Johannes Brahms. Le cinquième volume qui vient de paraître avec les deux sonates opus 120 et puis deux bijoux, c'est Zwei Gesang, dont nous écoutions un extrait chanté par Sarah Lolland, accompagné par Éric Lesage et Lise Berthaud. C'est donc une nouveauté qui paraît chez Bee Records.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Dans cette émission, nous nous intéressons donc au chant choral. Ça, ce sera avec Marc-Olivier Dupin à 8h30. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Et j'en profite donc ce matin pour vous parler de cette grande soirée qui me tient à cœur et que j'aurai le plaisir de présenter, une France Musique Academy. Ce sera le 12 mars prochain, c'est un jeudi, au studio 104 de la Maison de la Radio. Soirée placée sous le signe donc de la transmission des jeunes musiciens, du perfectionnement, des pratiques amateurs. Sur scène, vous pourrez entendre des ensembles qui mélangent musiciens amateurs et professionnels, des étudiants du CRR d'Aubervilliers, des conservatoires de Paris et de Lyon, les chanteurs amateurs du COJ, Chœur et Orchestre des Grandes Écoles, mais aussi la Chapelle Harmonique de Valentin Tournet, le guitariste Thibaut Garcia, Léa Desandré, la mezzo, des membres de l'Académie Jaroussky ou encore Sébastien Dossé à la tête d'un ensemble fondé par Royaumont. Vous serez vous-même invité à donner de la voix grâce au spectacle Back and Breakfast du Centre de Musique de Chambre qui sera présenté par Jérôme Pernaud. Et pour accompagner cette soirée, eh bien nous accueillerons une marraine de choix puisque Sabine Devielle, la soprano, sera des nôtres tout au long de la soirée. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour cette grande soirée du 12 mars à 20h. Au studio 104 de la Maison de la Radio sur le site www.maisondelaradio.fr. Rejoignez-nous nombreux pour cette grande soirée festive autour de cette thématique des pratiques amateurs et du plaisir de la musique. Tendre amour, air de Chloé, extrait d'Anacréon de Jean-Philippe Rameau, interprété ici par Sabine Devielle, les ambassadeurs Alexis Kosenko. Sabine Devielle, marraine donc de notre grande soirée consacrée aux pratiques amateurs, au plaisir de la musique, qui se tiendra le jeudi 12 mars prochain à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio avec Valentin Tournet, la Chapelle Harmonique, Thibaut Garcia, Léa Desandré, l'Académie Jarouski, Royaumont, des élèves de conservatoire. Rejoignez-nous et prenez déjà vos places sur le site www.maisondelaradio.fr, événement gratuit, je le précise, donc n'hésitez pas à venir nous écouter, nous entendre et nous voir.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia, bonjour à tous.
Ils ont un statut particulier, ils sont enseignants, mais n'appartiennent pas à l'éducation nationale. Ils dépendent de la fonction publique territoriale. Ces professeurs de conservatoire, ces enseignants artistes, comme on les appelle, qui se mobilisent contre la réforme des retraites. Alors pour faire entendre leur voix, oubliée par les politiques et par l'opinion publique, ils ont créé un groupe Facebook qui s'appelle Mobilisation des conservatoires de musique, danse, théâtre, art plastique. Marie, vous avez rencontré une des membres de ce collectif.
Je suis atterrée par tout ce qui se passe et par le fait que les gens ne voient pas encore assez, quoi. Il faut vraiment se mobiliser et c'est le sens de notre collectif, c'est vraiment que nos collègues prennent conscience de la mobilisation, elle est importante, il faut qu'elle grossisse encore.
Sophie Ortiz enseigne la formation musicale à l'École des Arts de Marcoussis et au Conservatoire de Villebon-sur-Yvette, au sud de Paris. Aujourd'hui, à notre micro, Saskia, elle se fait la porte-parole de ce collectif.
C'est simplement la triple peine. Alors, en premier lieu, parce que majoritairement, on est des fonctionnaires. Donc, on a une carrière qui se déroule schématiquement sur une échelle de rémunération, on gravit les échelons. Et il n'y a quand même pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour comprendre que calculer la pension de retraite sur les 6 derniers mois du dernier échelon atteint est évidemment plus favorable que de la calculer sur l'ensemble de la carrière. La peine numéro 2, c'est d'être des fonctionnaires territoriaux. On est des agents de mairie. On est en principe assimilés aux professeurs de collège ou de lycée, mais à niveau d'études équivalent, on a une rémunération qui est bien moindre. Et en plus de ça, le gouvernement parle d'inclure les primes dans le calcul des pensions de retraite. Et pour nous, les fonctionnaires territoriaux, c'est totalement aberrant parce qu'il y a un principe constitutionnel qui fait que les collectivités ont leur libre administration, donc elles ont le droit ou non d'octroyer des primes, ce qui fait que ça fait une différence totale sur tout le territoire. Et ça, c'est pas seulement pour nous, c'est pour tous les fonctionnaires territoriaux. Voilà. Et enfin, la troisième peine, ça nous touche directement les enseignants artistes. Pourquoi ? Parce qu'on rencontre énormément de difficultés à faire une carrière complète. La plupart d'entre nous sont titularisés bien tard, parce que les concours de la fonction publique sont très peu fréquents, parfois tous les 10 ans pour certaines disciplines, hein, comme le jazz, la danse. Ensuite de ça, parce que les enseignants d'instruments rares, imaginez le clavecin, le cor, le hautbois, arrivent très rarement à obtenir un temps plein. Et même quand on a réussi un concours et que le poste existe, les collectivités territoriales sont frileuses et rechignent à titulariser leurs enseignants artistes. Et entre nous, est-ce que vous voyez vraiment une prof de danse enseignée à 67 ans ?
Alors Marie, ce nouveau collectif compte aujourd'hui près de 5000 membres. Ils viennent des conservatoires, des écoles de musique ou des associations. Mais ce groupe rassemble aussi des techniciens des conservatoires et du personnel administratif.
Alors trois priorités pour ce groupe. S'organiser, unir leurs forces. Ensuite, ils veulent faire prendre conscience à leur profession des méfaits de cette réforme. Et enfin, la dernière mission, c'est de communiquer leur colère via les réseaux sociaux et la presse.
Alors nous, qu'est-ce qu'on propose ? Une des solutions pour que l'avenir soit moins noir, et qui est notre revendication depuis toujours, c'est déjà d'être traité comme les enseignants de l'éducation nationale, c'est-à-dire à niveau de qualification égal, salaire et primes égaux. Il n'y a pas de raison que les fonctionnaires territoriaux soient toujours moins bien traités que leurs homologues de l'État.
Et que répondent les politiques à ces revendications, Marie ?
Eh bien, Saskia, pas grand-chose. J'ai contacté certains députés qui m'ont renvoyé vers d'autres députés, qui m'ont même renvoyé vers d'autres députés. Bref, pas de réponse. Je laisse donc une dernière fois la parole à Sophie Ortiz. Elle raconte le déroulement des manifestations pour les enseignants artistes.
On reprend beaucoup les slogans des manifestations générales. Qu'on chante avec notre cœur d'artiste, voilà. On a aussi des collègues qui créent des chansons à quatre voix, par exemple, pour l'occasion. En tout cas, à Paris, vous nous retrouverez derrière une banderole qui s'appelle Conservatoire et École de Musique, Danse, Théâtre et Arts Plastiques.
Merci beaucoup Marie pour ce reportage. Et en parallèle de cette mobilisation contre la réforme des retraites, il faut noter qu'une autre réforme se prépare, celle des conservatoires. Une réforme qui vise à délabelliser ces établissements, à les classer, à les certifier. Cela signifie qu'on enlèvera le label de qualité à certains conservatoires et cela permettrait d'embaucher des contractuels qui coûtent moins cher et non des enseignants artistes. Affaire donc à suivre avec vous Marie dans cette émission. Merci beaucoup et je vous souhaite une très belle journée, à la semaine prochaine. Agustín Barrios Mangoré, le prélude de sa cathédrale ici interprété par le guitariste Thibaut Garcia. Il est 8h26 minutes. C'est l'heure de la chronique Battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Et nous évoquons aujourd'hui une association qui a fait un travail de pionnier dans le domaine du chant choral en France.
Oui, l'association À Cœur Joie. En fait, il faut replacer un peu les choses dans le contexte. Dans les années 1950, le chant choral n'avait pas l'image qu'il a aujourd'hui. On a été fous de flûte à bec, par exemple. Des générations de petits enfants ont été traumatisés par la flûte à bec dans tous ses états, qui n'avaient rien d'ailleurs de baroque et de génial, comme on l'a après redécouverte. Mais bref, le chant choral n'était pas tout à fait en odeur de sainteté, si on peut dire. Et il se trouve qu'il y a eu quelques grands militants qui ont fait un travail absolument formidable, et notamment César Joffray, compositeur, professeur au Conservatoire de Lyon, qui était à l'origine donc du grand mouvement À Cœur Joie.
Comment s'est créé ce mouvement choral qui a pris une ampleur considérable ?
Donc, à l'origine, assez modestement, dès les années 1940, quelques velléités de César Joffray de faire un travail avec des groupes de scouts. Alors, je ne sais pas si c'est l'amu de ces garçons qui l'a un peu détourné du chemin, mais en tout cas, toujours est-il que après la guerre, il s'oriente plutôt vers un mouvement d'éducation populaire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une approche de la pratique vocale et chorale qui est généreuse, qui évidemment prend en compte tout de suite la dimension amateur et et humaniste. Et donc l'association est créée en 1950. En 53, les premières chorallies à Vaison-la-Romaine, c'est-à-dire des milliers de choristes amateurs qui se retrouvent pour chanter toutes sortes de répertoires d'ailleurs, parce qu'une des forces du mouvement, c'est d'être très ouvert stylistiquement. Donc en 53, les premières chorallies à Vaison-la-Romaine et qui ont perduré, qui perdurent, et voilà un petit témoignage du 7 août 2019 avec à Vaison-la-Romaine avec À Cœur Joie.
Quelques mots, Marc-Olivier, que se passe-t-il au Coralie ?
Alors, il y a des concerts de masse, il y a des stages, il y a toutes sortes d'activités, environ 150 concerts, ce qui est absolument gigantesque. Mais il faut dire aussi que ce grand mouvement À Cœur Joie, cette association, est presque plus une fédération maintenant, puisqu'elle comprend à peu près 500 chorales et 15 000 adhérents en France. À Cœur Joie, c'est aussi un chœur national des jeunes dirigé par de remarquables chefs de chœur comme Christine Morel ou Valérie Fayet qu'on a entendu à Nantes il n'y a pas si longtemps. Des concerts, des stages partout en France. Alors il y a des stages absolument formidables. Si vous allez sur le site, vous verrez que, par exemple, en 2020, il y a en Bourgogne, Vignobles et Patrimoine. Ça laisse présager
des
bouillantes mélodies. Il y a aussi cordes vocales et chaussures de marche. Enfin, c'est une façon de prendre le chant choral à la fois giocoso dans le plaisir et d'adjoindre une activité physique, ce qui est vraiment bien. Ensuite, À Cœur Joie, c'est aussi une grande activité internationale et aussi une publication très nourrie de toutes sortes de répertoires pour le chant choral. Quelques extraits, quelques notes de Monteverdi par le Chœur national des jeunes à Cœur Joie lors du concours européen 2018.
Marc-Olivier Dupin.
Ben oui, pourquoi pas.
Ben oui, pourquoi pas. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître les dates de concerts, de stages, vous inscrivez vous-même et vous lancez dans le chant choral, n'hésitez pas, une adresse, un site internet, celui de cette association, donc À Cœur Joie, www.coralie, avec un s.org. Merci beaucoup, Marc-Olivier, d'avoir partagé ceci avec nous ce matin. On vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr.
Merci Saskia.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Thank you.
Un très bel Ave Maria signé Leo Janáček et interprété par la Capella Amsterdam à 8h36 pour accueillir eh bien, notre invité du jour.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour François Delagoutte.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes directeur de la Cité de la Voix située à Vézelay, grand lieu, haut lieu dédié à l'art vocal en Bourgogne-Franche-Comté. Et vous êtes, par extension, directeur de ce festival dont nous allons parler ce matin, Elle au pluriel, Musique au féminin, un festival qui démarre le 6 mars prochain et qui se tiendra jusqu'au 28 du même mois. Quel est l'objectif de ce festival, François Delagoutte ?
Alors, il y avait plusieurs objectifs. L'objectif, bien sûr, c'est de mettre en lumière les artistes femmes, compositrices, chefs de chœur, interprètes. Parce que on le sait, dans l'histoire, elles ont longtemps été mises de côté pour diverses raisons. Ce serait un peu long de toutes les évoquer ici. Et surtout, pour aussi mettre les interprètes en lumière, les interprètes d'aujourd'hui. Le deuxième objectif, c'était appeler la curiosité, je dirais, du public. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit, dans mon panthéon de musicienne et de compositrice, j'ai quelques manques. Voilà, donc c'est une exigence par rapport à moi-même.
Par rapport à ce que vous pouvez voir sur scène ?
Non, par rapport à moi-même, dans ma connaissance, je dirais, de l'histoire de la musique. J'en connais bien sûr beaucoup et parmi les très connus, mais il s'avère que l'histoire n'est pas si simple. Je me disais, il faut se faire violence aussi, voilà. Il faut qu'on aille vers une plus grande diversité et donc qu'on soit curieux. Et le public, c'est une manière pour le public aussi, c'est une proposition qu'on fait au public d'être curieux, d'ouvrir des portes, de mettre en lumière des parcours, des interprètes, avec toutes les problématiques que cela suppose pour ces interprètes et pour ces artistes, et en même temps de découvrir leur musique, et à travers leur musique, les découvrir elles.
Effectivement, dans le cadre de cette deuxième édition du festival Elle, qui démarrera donc le 6 mars prochain, deuxième édition, et vous écrivez ceci, François Delagoutte, dans le petit texte qui accompagne le programme de ce festival. Certains penseront que notre intention s'accroche à un effet de mode, d'autres que notre œuvre peut paraître bien modeste. Vous sentez quand même peut-être que les choses ont évolué à l'aube de cette deuxième édition? La première édition était un vrai succès, il faut le dire.
Oui, la première édition était un vrai succès, mais on a entendu quelques remarques, railleries peut-être, en disant, vu que je suis arrivé il y a un peu plus d'un an à la Cité de la Voix, quand on a proposé ce festival, en disant, c'est la mode, on parle des femmes, les sujets égalité hommes-femmes sont très présents dans notre société aujourd'hui, et c'est heureux, enfin, c'est ce que je pense.
Je suis partagé.
Et donc, voilà, on a pensé que c'était un effet de mode, et quand je veux dire par là que on va répéter, continuer, on va aller vers des choses qu'on ne connaît pas, vers de la création lors des prochaines éditions. Et donc, on persistera et on verra par là que y a une véritable intention de notre part. Voilà. Et qu'elle est sincère.
Et effectivement, le chemin reste encore long.
Et le chemin reste encore long parce que
d'installer ces femmes.
Bien sûr, il y a beaucoup de femmes et de compositrices, notamment d'aujourd'hui, qu'on connaît pas très bien. Et je dirais que notre intention, peut-être, elle est grande, mais que nous faisons avec ce que nous avons, avec les moyens que nous avons. Beaucoup d'initiatives sont prises aussi par ailleurs, donc on est une petite pierre à cet édifice-là. Voilà, c'est ce que je voulais dire par là, surtout.
Flee.
Care, Charming Sleeve de Robert Johnson, interprété ici par la sublime Lucide Richardot, ensemble correspondant Sébastien Dossé à ses côtés. Lucide Richardot qui sera en concert dans le cadre du festival Elle. François Delagoutte, son directeur artistique, est avec nous ce matin pour nous parler de ce festival, de cette musicienne fabuleuse aussi, Lucide Richardot.
Oui, c'est un caprice de ma part.
Un très beau caprice.
J'avais vraiment envie qu'elle soit là parce que c'est une des interprètes qui me fascine le plus aujourd'hui, dont la voix est absolument merveilleuse, avec ses timbres très très ténébreux dans les graves, et en même temps cette majesté. Bon, c'est une personnalité féminine très intéressante, voilà, le prétexte, je dirais, de Perpetual Night nous permettra d'avoir Lucille qui vient alors qu'elle est en production spécialement pour le concert. Et je voulais partager aussi avec le public sur le territoire, parce qu'on est dans un territoire aussi assez rural, où on ne voit pas forcément tous les interprètes qu'on voudrait avoir tout le temps. Et donc partager avec le public aussi
Et ce répertoire, ça sera donc absolument le 8 mars prochain à 16h à Clamecy dans le cadre du festival Elle. Elle chante, elle compose, elle dirige, elles sont partout, mises à l'honneur des voix de femmes dans le cadre de ce festival. 7 concerts, avec notamment Lucide Richardot dont on vient de parler évidemment, mais aussi un ensemble qui accompagne le festival depuis la première édition, l'ensemble Aedes, qui est très présent aussi dans le cadre de ce festival.
Oui, c'est l'ensemble associé de la Cité de la Voix. Donc Aedes a un rôle majeur dans notre projet, pour la création, pour la diffusion du répertoire choral, pour toutes nos actions d'éducation artistique et culturelle. Et donc, lors de la première édition, nous avions envie, avec Mathieu Romano, de créer un programme spécifique autour des chanteuses d'Aedes. Donc, qui mettent un peu en évidence des compositrices de Cassia, du 9e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les chanteuses étaient ravies de faire cette petite forme qui tourne un petit peu aussi en région. Ça nous sert à ça. Et ils seront là au rendez-vous, et je remercie toujours Mathieu pour sa fidélité et sa générosité là-dessus.
Et voilà. Ça sera le 20 mars avec un concert de l'ensemble Aedes, et puis le lendemain, cette journée de rencontres, et ça c'est intéressant, rencontre entre des ensembles vocaux féminins, ça se passera à la Saline d'Arc-en-Senant, qui est partenaire de ce festival, évidemment. Dites-nous quelques mots de cette journée, de cette rencontre, autant rencontre entre les musiciens, les musiciennes, et puis le public.
Alors, pas le public justement, des rencontres entre les chœurs féminins. Pour la première édition, on avait lancé un appel à concert, c'est-à-dire qu'une dizaine de chœurs avaient organisé un concert en région autour d'une compositrice, d'un répertoire qu'ils avaient choisi. Donc c'était une manière pour nous de faire participer les chœurs amateurs au projet. Là, on a choisi d'aller plus loin, donc on ira à Arc-en-Senant, et chaque chœur, donc il y a une dizaine d'ensembles qui viendront participer, présentera aux autres chœurs, pendant 30 minutes, une partie de leur répertoire, donc les chœurs féminins, et se présentera aussi. Il s'agit par là de se faire connaître entre eux les ensembles vocaux féminins de la région. Et à la fin de la journée, Mathieu Romano viendra à la Saline Royale et fera chanter une œuvre polychorale à l'ensemble des chœurs. Voilà, donc c'est plus une action, je dirais, qui va permettre d'échanger sur les pratiques des chœurs entre eux, sur leur répertoire, sur des questions aussi de formation qui vont peut-être être abordées à cette occasion-là. Et parce que nous suivons aussi dans le cadre de notre projet à la Cité de la Voix, toute la qualification des chanteurs amateurs et des chefs amateurs aussi. Et nous avons beaucoup d'actions pour les aider. Donc c'est important de croiser. Nous avons des concerts, des professionnels, des ateliers, mais aussi des chœurs amateurs, et de toujours les associer à nos actions.
Voilà. À vos actions et puis à ce festival. Elle, qui démarrera donc le 6 mars, qui se tiendra jusqu'au 27 mars. Évidemment, il y a aussi plein d'autres événements dans le cadre de cette programmation. Je pense à des avant-concerts, je pense à un atelier autour des polyphonies de la Méditerranée. Ça, ce sera le 7 mars. Une partie des concerts et des événements sont gratuits. Il faut pour cela s'inscrire auprès de la Cité de la Voix, un site pour réserver vos places, chers auditeurs. www.lacitedelavoix.net. Vous trouverez évidemment les liens nécessaires sur le site francemusique.fr, sur la page de Musique Matin. On va terminer avec une artiste qui clôturera justement ce festival. Elle, ce sera à la fin du mois de mars. On a encore un peu de temps. Le 27 mars, la chanteuse franco-camerounaise Irma, dont vous nous dites quelques mots pour se quitter, François Delagoutte.
Oui, alors c'est une proposition du Silex de la salle de musique actuelle qui est située à Auxerre. Donc comme vous le voyez, le festival a une diversité vraiment de répertoires, d'esthétiques et pour toucher tous les publics et de lieux, évidemment. Donc on travaille en collaboration. Ils nous ont proposé cette chanteuse qui a eu un parcours fulgurant en 2014 quand elle s'est lancée. Et ce qui m'intéressait là à travers elle, justement, c'est la manière dont elle a pris du temps pour se reconstruire, puisque après cette montée en puissance, il n'y a plus rien eu. Elle a eu beaucoup de doutes sur elle-même, sur sa manière de chanter, sur sa carrière artistique. Elle a pris énormément de recul et elle revient avec un deuxième album, là qu'on va découvrir effectivement avec des influences pop, soul, voilà. Elle a travaillé avec aussi une youtubeuse très connue pour ses clips. Donc, elle se reconstruit.
Féministe et engagée.
Elle s'est reconstruite et c'est son parcours aussi qui est intéressant. Le festival permet de mettre en lumière aussi des femmes à travers leur parcours, leurs difficultés et, comme je l'écrivais, leur art parle pour elles, finalement.
Voilà. Merci beaucoup, François Delagoutte. À très bientôt.
If you really want to know, you got me stuck, intoxicated love. I'm suffocating, feel so lonely here with you. Better off alone, on my own, on my own. Stuck, intoxicated love. I'm suffocating, feel so lonely here with you. Better off alone on my own. If you really want to know, you got me stuck, intoxicated love. I'm suffocating, feel so
Irma qui viendra donc clôturer ce festival Elle, musique au féminin, qui se tiendra du 6 au 27 mars à la Cité de la Voix de Vézelay, puisqu'on évoque les femmes ce matin sur France Musique. Un petit mot sur cette journée des droits des femmes qui pointe son nez, ce sera le 8 mars prochain. Elle sera fêtée sur France Musique, bien sûr, avec notamment une émission au cœur de l'orchestre consacrée aux femmes à la baguette par Christian Merlin. Musique et moi, Elsa Boublil recevra la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Et puis une carte blanche sera offerte à Donatienne Michel Dansac, chanteuse que j'adore. Ce sera dans le carrefour de la création le 8 mars prochain, donc sur France Musique.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Les auditeurs de France Musique ont fort probablement, ils vont fort probablement reconnaître ce prélude de Parsifal sous ma voix. Vous nous emmenez, Roselyne, une nouvelle fois à Bayreuth.
Oh que non, au Capitole de Toulouse. Ce soir, Judith Chen, d'un samedi à l'Opéra, va nous offrir une soirée exceptionnelle. Christophe Gristy, le patron du Capitole, a pris un sacré risque en décidant de monter l'œuvre mythique de Richard Wagner, qui n'avait pas été donnée sur la scène occitane depuis 1960. Il a réussi son pari au-delà de toutes les espérances, et l'ensemble des critiques a salué une production exceptionnelle. Si la mise en scène d'Aurélien Bory a parfois dérouté celles et ceux qui ne jurent que par des reconstitutions moyenâgeuses, elle s'accordait parfaitement avec la direction très épurée du chef Frank Berman, qu'on voit trop peu en France. Ce spécialiste des deux Richard, Strauss et Wagner, a réfuté tout zimboum-boum, tout effet grandiloquent, pour un parti pris de simplicité qui rend toute l'ampleur poétique de l'œuvre. Il a été parfaitement suivi par un orchestre du Capitole, transporté par l'émotion, et par la phalange des chœurs, chœur du Capitole, maîtrise et chœur de l'Opéra National Montpellier-Occitanie. Parsifal, c'est un vaisseau amiral sans équivalent dans le répertoire lyrique. Sa composition a occupé 25 ans de la vie de Wagner, livret et partition. Tiré entre autres d'une épopée médiévale, Parsifal de Wolfram von Eschenbach, c'est un parcours initiatique de rédemption qui rachète l'humanité de ses fautes. Ce parcours peut durer, selon le tempo décidé par le chef d'orchestre, entre 4 et 5 heures. C'est pour Parsifal que Wagner fit construire le Feldspielhaus de Bayreuth, où il fut donné pour la première fois en 1882 sous la baguette d'Hermann Lévy. Il était d'ailleurs convenu que Bayreuth en avait le monopole jusqu'en 1914, et la tradition voulait que les spectateurs n'applaudissent pas à la fin de la même façon que l'on n'applaudit pas à la fin d'un office religieux. Le Parsifal que vous entendrez ce soir est servi par une distribution de légende à la hauteur d'une composition terriblement éprouvante pour les chanteurs. Ne voyez aucun féminisme débridé dans ma mise en exergue de Sophie Koch qui campe une Kundry idéale. Catherine Jordy, dans Forum Opéra, la qualifie à raison d'époustouflante. Elle donne de ce rôle une version empreinte d'ampleur et de noblesse, très loin des Kundry vulgaires et vociférantes qu'on nous impose souvent. Certains puristes préféreront les cris de Martha Mödl, mais ceux de Sophie Koch méritent de rentrer au panthéon wagnérien. On ne sait ce qu'il y a de mieux entre les graves, les aigus et le médium, tout est impressionnant, en particulier dans le redoutable deuxième acte. Tout le reste de la distribution est dans la même veine. Le ténor autrichien Nikolai Choukov, routier expérimenté du rôle de Parsifal, le tient avec une clarté et une projection exemplaires. Pour vous donner une toute petite idée de la difficulté extrême de l'interprétation, le fameux Amfortas die Wunde à l'acte 2, et là c'est Jonas Kaufmann qui l'affronte. Le reste du casting est à l'avenant. Matthias Goerne campe un Amfortas, pêcheur impardonné, déchirant dans les mythiques Erbarmen, Erbarmen, pitié, pitié. La basse Peter Rose arrive à faire oublier les longueurs des airs de Gournemans et Pierre-Yves Pruvot donne une dimension à la fois noire et juvénile à Klingsor qui tranche avec les Klingsor classiques et qui rend de façon originale sa perversité maléfique. Il n'est pas étonnant qu'à la fin de ces représentations hypnotiques du Capitole, la plupart des spectateurs étaient en larmes. Et puisqu'il faut rester dans la légende, je vous quitte sur le cœur des chevaliers du Graal. Nous sommes à Bayreuth en 1958.
Merci beaucoup Roselyne pour cette chronique qu'on écoute sur France Musique. À très bientôt.
Au revoir Saskia, à la semaine prochaine. Yeah.
le cœur des Chevaliers du Graal à Bayreuth en 1958, ici Parsifal de Richard Wagner, à l'affiche donc de votre soirée opéra ce soir à 20h sur France Musique. Il est 8h58, l'heure de nous séparer déjà, l'heure pour moi de dire merci à toute l'équipe évidemment. Mais avant cela, je vais dire un petit mot sur le concours, sur cette exposition des couturiers de la danse que propose le Centre National du Costume de Scène de Moulins jusqu'au 3 mai, pour laquelle je vous propose de gagner vos places ce matin. Il fallait deviner le nom du fondateur des Ballets Russes. La bonne réponse était bien évidemment Serge Diaghilev. Les gagnants seront recontactés très prochainement par courriel. Merci donc à Marie-Ferdinand, Laurent Lefrançois, Philippe Mercher, Emmanuel Mansdincan et Déborah Dagobert. Et puis merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end et à samedi prochain.
À réécouter sur francemusique.fr.